Les matins de France Culture. Guillaume Herner.
7h17 sur France Culture. Et voici la question du jour. Laquelle question aujourd'hui porte sur l'économie en fin de semaine? L'INSEE publiait plusieurs enquêtes de conjoncture confirmant la reprise économique. Au même moment, Pôle emploi comptait près de 35 000 demandeurs d'emploi supplémentaires au mois de juillet. Deux données à première vue paradoxales. Si l'économie redémarre, pourquoi le nombre de chômeurs augmente-t-il? Bonjour Xavier Timbaud.
Bonjour.
Vous êtes économiste, directeur principal de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Comment expliquer ce paradoxe apparent?
Alors d'abord, vous avez bien raison de noter que c'est un paradoxe apparent, parce que en fait le chômage baisse. On a plusieurs mesures du chômage. Donc, je sais que tout ça est très confus.
Vous êtes là pour le rendre clair.
Donc on va essayer de l'expliquer. Donc il y a plusieurs mesures du chômage. Il y a une mesure du chômage qui est construite à partir de ce qu'on appelle l'enquête emploi, une grande enquête qui est faite auprès des salariés sur leur situation, enfin auprès de l'ensemble des Français sur leur situation sur le marché du travail. Est-ce qu'ils ont un emploi? Est-ce qu'ils sont salariés? Est-ce qu'ils sont indépendants? Est-ce qu'ils recherchent un emploi? Est-ce qu'ils sont chômeurs? Avec une définition assez précise de ce qu'est un chômeur. Et cette mesure-là nous indique que jusqu'au deuxième trimestre de l'année 2017, le chômage baisse et a baissé, et ce depuis le milieu de l'année 2015. Donc le taux de chômage, juste pour vous donner un élément quantitatif, était de 9,2% au deuxième trimestre 2017, ce qui est un taux de chômage élevé, mais en nette baisse par rapport à son point haut, qui était de 10,2% pour la France métropolitaine, au début de l'année 2015.
Donc une baisse indéniable.
Donc une baisse indéniable qui est en concordance avec tous les autres éléments qu'on a sur l'économie française, non pas simplement dans les dernières semaines avec les enquêtes que vous avez signalées de l'INSEE, mais en fait depuis maintenant plusieurs trimestres, avec une croissance qui est solide, et surtout un phénomène très intéressant qui est qu'il y a beaucoup de création d'emplois. Les créations d'emplois sont autour de 300 000 emplois créés par an, ce qui est largement au-dessus du flux de nouveaux venus sur le marché du travail, et donc qui doit apporter, et apporte effectivement, une baisse du chômage.
Mais alors ça veut dire quoi? Quand on constate donc qu'on a 35 000 demandeurs d'emploi supplémentaires, est-ce que ça signifie par exemple que ça n'a pas de sens de compter le nombre de chômeurs chaque mois? Est-ce qu'il faudrait donc le faire à un intervalle moins rapproché par exemple?
En tout cas, le nouveau ministre du Travail du gouvernement Macron, Muriel Pénicaud, a décidé de ne plus commenter les chiffres mensuels du chômage. Alors, les mauvais esprits vont dire, oui,
peut-être que ça l'arrange.
Et ça l'arrange. Ce qui a été plutôt intéressant, c'est qu'elle a fait ça dès qu'elle est arrivée en fonction, en responsabilité, et à un moment où les chiffres étaient plutôt bons. Donc, à ce moment-là, ça l'arrangeait pas. Et il y a une raison à faire ça. C'est-à-dire, ce qu'on mesure, c'est pas le chômage, en fait, le chiffre qui a été publié par Pôle emploi, c'est les demandeurs d'emploi en fin de mois. Donc c'est les gens qui décident d'aller s'inscrire à Pôle emploi et que Pôle emploi inscrit sur ces listes. Donc c'est un mélange entre qui veut s'inscrire et puis la façon dont Pôle emploi gère ces listes. C'est un chiffre qui est construit tous les mois. Alors il est très intéressant parce qu'on l'a quelques semaines après le moment où il a été collecté. Donc par exemple là on a l'information sur le chômage, sur les demandeurs d'emploi en juillet 2017. Donc c'est une information beaucoup plus fraîche. Mais le problème, c'est qu'elle ne nous donne pas le taux de chômage. Elle nous donne les demandeurs d'emploi. Elle dépend de tout un tas de choses qu'on maîtrise mal. Des comportements des chômeurs, des comportements des agences Pôle emploi dans la façon de gérer leurs fichiers. Et ce chiffre-là, depuis maintenant plusieurs années, donc c'est quelque chose qui remonte à assez longtemps, diverge de celui de la mesure du taux de chômage faite à partir de l'enquête d'emploi, qui est une mesure qui est robuste et beaucoup plus solide.
Mais alors, vous justement, Xavier Timbaud, vous qui êtes économiste, est-ce que ça ne vous donne pas envie, parfois, de reconstruire un autre indice du chômage? Parce que à chaque fois qu'il est question du chômage, de l'inflation, on entend dire vos confrères que l'indice est mal construit ou alors qu'il est partiel.
Tout à fait. Et alors, surtout, bien qu'il soit mal construit, il a quand même un immense intérêt. C'est que d'abord, il est disponible tous les mois, donc il nous donne une information fréquente qui permet d'avoir un diagnostic sur l'économie française mis à jour très souvent. Ce qui est important parce que c'est quand même une information centrale, l'évolution du chômage. Et puis d'autre part, avec très peu de retard. Donc oui, c'est important d'avoir un indicateur. Alors, Muriel Pénicaud, en refusant de commenter le chiffre du chômage, a mis en place un groupe d'experts qui est censé proposer un certain nombre de solutions alternatives à l'utilisation des demandes d'emploi en fin de mois, pour avoir un indicateur robuste et qui conserverait ses bonnes qualités d'être fréquent et disponible rapidement.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous ?
Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est arriver d'un côté à se caler statistiquement sur l'enquête emploi, donc cette méthodologie qui consiste à interroger 150 000 Français chaque année sur leur situation sur le marché du travail, qui sont sélectionnés rigoureusement en utilisant le recensement de la population, à se caler là-dessus et à utiliser les informations issues de Pôle emploi qu'on arriverait à retraiter correctement pour essayer d'anticiper quelle est l'évolution du taux de chômage en quête emploi et non plus des demandeurs d'emploi en fin de mois. Ceci étant dit, c'est pas si simple. Et si jamais on n'y arrive pas, il vaut peut-être mieux se contenter d'oublier cette mauvaise mesure et se concentrer uniquement sur la bonne mesure, mais qui vient à une mauvaise fréquence.
Bon, alors on a bien compris qu'il y a un problème de mesure, il y a aussi un problème d'analyse si on prend votre tendance, si on considère avec vous, Xavier Timbaud, que le nombre de chômeurs est en train de diminuer, à qui faut-il attribuer cette baisse ? Est-ce par exemple la conséquence des choix politiques et économiques de François Hollande ?
Alors, c'est difficile de faire ça. C'est-à-dire, vous avez un bateau qui vient de traverser la tempête. Est-ce que la tempête s'arrête parce que c'est le capitaine qui l'a décidé ou qui a obtenu la fin de la tempête ? Non, on sait
non,
que les tempêtes...
Mais on dit quand même que de la manière dont le capitaine pilote son navire, eh bien, il peut y avoir des conséquences sur la manière dont il traverse la tempête.
Voilà, alors, vous avez raison. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est comparer la façon dont on sort de cette tempête par rapport à ce qui serait passé avec un autre capitaine. Si on regarde ce qui s'est passé dans d'autres pays, on s'aperçoit qu'il y a des pays qui sont sortis beaucoup plus vite que nous de la tempête. Si on compare par rapport à d'autres épisodes conjoncturels dans le passé, ce dont on se rend compte, c'est que la façon dont on sort de cette crise est aujourd'hui plutôt plus lente et moins dynamique que ça a pu être par le passé.
Alors, mais ça, excusez-moi, je vous coupe. Est-ce que ça, justement, ça n'est pas l'une des particularités du modèle français ? On subit moins la crise que les autres et on en sort moins vite.
Vous avez raison, mais encore une fois, on peut se comparer par rapport à la France dans le passé. Dans ce cas-là, ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement de François Hollande a pris un certain nombre de mesures dans des circonstances qui étaient très particulières. Rappelez-vous, il est arrivé au pouvoir en 2012 à un moment où l'euro menaçait d'exploser. Et où il a fallu mettre en place tout un tas de compromis, en particulier avec nos partenaires allemands, pour maintenir la cohérence de l'euro. Il a conduit un certain nombre de politiques qui ont coûté très cher en termes d'emploi et d'activité, mais il a engagé aussi des réformes sur le fond, comme par exemple le crédit d'impôt compétitivité emploi, ou le pacte de responsabilité pour redonner des marges aux entreprises. Et si aujourd'hui les entreprises investissent, c'est en partie grâce à ces mesures qui ont été prises. Donc, voilà, il faut le juger par rapport aux circonstances dans lesquelles il était. Il a clairement pris un certain nombre de choix qui ont décalé la reprise, mais du coup, on peut lui attribuer en partie la reprise. D'un autre côté, on finit toujours par sortir des crises, et donc on ne peut pas tout lui attribuer non plus.
Et alors, je vais terminer quand même par une question difficile, Xavier Timbaud. On voit ce qu'Emmanuel Macron veut faire en matière de politique économique. Votre avis sur les conséquences en matière de chômage de ces mesures qui devraient donc voir le jour ?
Ah, c'est une question difficile, mais c'est une question très intéressante et puis très importante. Parce que on voit qu'on a une reprise aujourd'hui avec des créations d'emplois, avec une baisse du chômage. Cette baisse du chômage, elle est quand même plutôt lente. Et il y a quand même un tout petit peu de fragilité dans tout ça. Par exemple, arrêter les emplois aidés brutalement. Faire une réforme du marché du travail qui va faciliter largement les licenciements avant de générer des embauches, ça peut avoir un impact plutôt négatif sur la reprise de l'emploi. Et le cercle vertueux qu'on attend, baisse du chômage, reprise de la consommation, reprise de la confiance, à la fois des entreprises mais aussi des ménages, pourrait être, si ce n'est arrêté, au moins freiné par cette politique. Donc, il faut du doigté dans ce genre de situation et ne pas trop pousser son avantage.
Merci beaucoup, Xavier Timbaud.